Alors Laurent Chauveau, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au laboratoire des sciences de l'environnement marin du CNRS à Brest et vous vous intéressez au fonctionnement des écosystèmes côtiers, entre autres. Ça fait plus de 20 ans maintenant que vous concentrez vos recherches sur la coquille Saint-Jacques. Alors de quoi est partie cette volonté tout d'abord d'étudier la coquille Saint-Jacques en particulier ?
Clairement, parce que c'est un animal à intérêt commercial et qu'en rade de Brest, on s'interrogeait, pas moi, mais les décideurs et quelques scientifiques s'interrogeaient sur l'avenir d'une pêcherie parce qu'elle était associée à une économie, à un symbole, à une espèce de carte postale du pêcheur partant avec son bateau en bois et allant chercher des coquilles Saint-Jacques avec une drague. Et on s'intéressait à la biologie de la coquille Saint-Jacques pour répondre à une question simple, est-ce que dans 20 ans, il y aura encore des coquilles Saint-Jacques en rade de Brest ? Donc si vous voulez, ce n'est pas forcément un choix complet. Mon choix a été dans la biologie marine, dans l'écologie marine et dans les études supérieures. C'est-à-dire là, j'étais en doctorat et j'ai accepté un sujet de thèse sur la coquille Saint-Jacques en doctorat en 1994.
Et j'ai vu qu'il y avait aussi une date marquante pour vous, le 20 août 1995, si je ne me méprends pas.
En 1995, il se passe quelque chose de particulier parce qu'on étudiait la croissance des juvéniles de coquille Saint-Jacques. C'était un peu notre job dans l'histoire. Et on l'avait fait en 1994. On avait de très bonnes idées sur comment une coquille Saint-Jacques grandissait dans une année dite normale, où il ne s'était rien passé de particulier, ni trop chaud au printemps, ni trop pluvieux, enfin, quoi qu'il ne pleut jamais à Brest. Mais... Et en 1995, on avait cette chance d'avoir une efflorescence toxique. Il y a des micro-algues se sont développées. Elles sont toxiques et elles perturbent grandement la croissance des coquilles Saint-Jacques. Et apparaît une marque sur la coquille à l'extérieur, et c'est cette marque un peu intrigante, associée à des mortalités chez les larves, chez les jeunes, qui nous ont fait regarder très précisément les petites stries qui figurent entre deux marques hivernales sur cet animal, et on a découvert là que la coquille Saint-Jacques, je passe un an de travail, mais qu'elle déposait une petite marque qui ressemble à une vague, comme en mer, une petite vague à la surface de son squelette, donc à la surface de la valve gauche, celle qui est plate, une petite marque tous les jours.
Et justement, vous venez de la citer, cette microstrie qui se crée chaque jour sur son squelette. En quoi ça a été une découverte majeure et voilà, en quoi ça fait de la coquille Saint-Jacques un outil scientifique indispensable pour vous maintenant ?
Il y a quelque chose qui est assez étonnant sur un animal marin, c'est qu'il marque le temps à l'échelle du jour. Ouais, donc vous avez un métronome, quelque chose qui est fabriqué tous les jours. Ça veut dire que vous avez la possibilité de calculer la croissance chaque jour d'une coquille Saint-Jacques a posteriori, sachant qu'elle vit de la zone intertidale, quasiment du haut de plage, enfin du bas de plage, jusqu'à 300-400 mètres de profondeur. Ouais. Et du Maroc à la Norvège, ça ouvre un potentiel sur la mesure d'une réponse biologique quotidienne dans le milieu marin, chez un invertébré. C'était le seul animal où on était capable de faire ça sans aller en mer tous les jours. Oui, évidemment, on est capable de faire plein de choses. Si vous avez un bateau et que vous restez en mer tous les jours, vous mesurez des paramètres biologiques quotidiens. Mais là, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous pouvez le faire a posteriori au moment où vous capturez l'animal.
Et donc, sur chaque microstrie, vous pouvez notamment avoir des données de température à 0,2, 0,4 degrés près.
On fait un thermomètre médical, vous voyez, une précision qui est suffisante pour faire de l'océanographie. Et alors là, l'astuce, on raconte ça sur le coin d'une table, ça s'est passé en 5 ans de recherche supplémentaire, et de façon complètement fortuite une nouvelle fois, on n'a pas fait exprès, mais une coquille Saint-Jacques, c'est comme des coraux, c'est fabriqué en carbonate de calcium. Dans le carbonate de calcium, il y a de l'oxygène. L'oxygène sur Terre, il existe sous 3 formes, l'oxygène 16, le 17 et le 18, et les proportions entre le 16 et le 18 varient quand on synthétise du carbonate de calcium dans de l'eau de mer avec la température de l'eau de mer. Si vous êtes capable de calculer les proportions entre O16 et 18, ce que fait bien un spectromètre de masse ici à Rennes ou à Brest ou à Paris ou en Chine, un spectromètre de masse, il vous fait ça très facilement. Et résultat des courses, on est capable, on a transformé, on a calibré cette coquille Saint-Jacques avec ses variations O16, O18 en fonction de la température mesurée. Et on s'est retrouvé avec une calibration. Comme on calibre un thermomètre au mercure, on est capable de calculer la température de l'eau de mer tous les jours sur une coquille Saint-Jacques qui potentiellement est là depuis 25 millions d'années.
Et du coup, ça permet d'en apprendre, j'imagine, beaucoup plus sur l'histoire peut-être des écosystèmes marins d'il y a... de plusieurs siècles, plusieurs millénaires.
Vous vous retrouvez dans la situation de quelqu'un qui vient de mettre au point un outil pour faire du paléo-environnement. Et surtout, ça permet de détecter des événements qui sont des oscillations thermiques à Saint-Pierre-et-Miquelon ou des upwellings, c'est-à-dire l'impact du vent sur les remontées d'eau froide en Norvège ou la vitesse de rotation de la Terre parce que, avec la température, vous avez les alternances pleines mer, enfin vives eaux, mortes eaux, et ces alternances vives eaux, mortes eaux dépendent de la vitesse de rotation de la Terre. Ouais. Plein d'astuces apparaissent, et au-delà des isotopes de l'oxygène, on s'est mis à étudier la chimie grâce au pétrole de l'Erika, en se disant, est-ce qu'on pourrait pas aller voir si le pétrole de l'Erika a une petite trace laissée dans les coquilles de Belle-Île-en-Mer, de Groix et au large de Concarneau. Résultat des courses, on cherchait du vanadium, on en a trouvé, et a commencé cette idée d'aller chercher des contaminants dans les coquilles Saint-Jacques. Et là, il y a 2 ans, on a découvert qu'on trouvait du gadolinium, qui est l'élément, qui est le contrastant dans les IRM utilisé en routine pour augmenter le contraste des images médicales. IRM, ce gadolinium, il est très très bien enregistré dans les coquilles Saint-Jacques que l'on conserve depuis maintenant 40 ans, dans des espèces de Saint-Jacothèques ou de Pectothèques. Vous voyez, on a une banque de coquilles Saint-Jacques prélevées à la pointe de la Bretagne, en mer d'Iroise et en rade de Bresse, qui nous permet de retracer des contaminations assez facilement en allant étudier la chimie du squelette d'une coquille Saint-Jacques. Vous voyez, on se retrouve dans la situation de police scientifique, aller cherchant des traces ou des micro-traces dans un squelette d'un animal mort il y a longtemps.
Et la coquille Saint-Jacques, en quoi elle nous permet aussi peut-être de mieux appréhender le changement climatique ?
Alors, ce qu'on a bien fait en Bretagne, et qu'on fait toujours bien en Bretagne, c'est des bonnes idées sont applicables ailleurs. Et donc, les progrès ont été faits parce que ce qu'on avait fait en Bretagne pouvait être fait à l'échelle de la façade atlantique. S'il pouvait être fait à l'échelle de la façade atlantique, du Maroc jusqu'à la Norvège, sur la coquille Saint-Jacques, on pouvait le faire sur une autre espèce. Et on a été faire ça en Nouvelle-Calédonie. C'est Julien Thébault à l'UBO qui a fait ça en Nouvelle-Calédonie. Puis on a été au Mexique, puis en Mauritanie. Et alors, je ne fais pas la liste de tous les pays qu'on a visités grâce aux coquilles Saint-Jacques. Ça a été une vraie planche à billets et un billet d'avion permanent pour aller faire des plongées dans les endroits les plus extraordinaires de la Terre. Mais surtout, on a fini par aller sur les pôles. On a été en Antarctique chercher le pétoncle circumpolaire qui fait le tour de l'Antarctique. Et là, des aventures sont nées. Puis, on a été en Arctique, au Spitzberg et au Groenland pour étudier. Là, il y a 2 espèces de pétoncles qui nous intéressent. Et finalement, tous ces bivalves et tous ces mollusques étudiés, ceux qui vivent pas longtemps, ceux qui vivent très longtemps, ceux qui vivent qu'en milieu polaire, qu'en milieu tropical ou qui vivent partout, nous intéressent parce que à la croisée des informations qu'on extrait de ces archives environnementales, on trouve effectivement les traces d'un changement en cours qui a déjà eu lieu, qui est déjà en train de fonctionner à grande vitesse, notamment en Arctique.
Et le réchauffement climatique provoque plein de choses, fonte des glaciers, évolution des températures, et au niveau des océans, une acidification aussi de la mer. Alors quel impact ça a directement sur la coquille Saint-Jacques ?
Sur la coquille, il se passe des choses au stade larvaire, et dans les informations dont on dispose pour la coquille adulte, à ma connaissance, on n'a pas d'impact fort de l'acidification aujourd'hui. Ouais. C'est un animal qui, et c'est vrai pour pas mal de mollusques, vont avoir des difficultés, soit dans leur physiologie, dans la capacité à réguler leur physiologie, ou au stade larvaire, avec des difficultés là évidentes sur le squelette naissant. Ouais, la larve, elle est avec une petite coquille toute fine, et celle-là, elle peut être évidemment endommagée par une eau de mer trop acide. Ouais. J'en sais pas beaucoup plus sur ce sujet-là.
Et de manière générale, le réchauffement climatique sur les écosystèmes marins, quels sont les conséquences majeures ?
Plein de choses, mais vraiment plein. Pour un mollusque, par exemple, ça change de la prévalence à des maladies. Il y a des vibrios en Bretagne qui se développent qu'à 17 degrés. C'est le cas du vibrio harveyi qui se développe sur l'ormeau et le tue. Il apparaît qu'à 17 degrés, vous augmentez la température. Si elle est à 16, il ne se passe rien. 16,5, il ne se passe rien. Et à partir de 17, l'animal est malade et disparaît. Ouais, et donc, il faut s'attendre à des déplacements d'espèces ou des remontées vers le nord avec notamment des pathogènes. Mais ça peut être vrai avec des débits des rivières qui changent et qui changent complètement la dynamique du phytoplancton. Et vous avez des grosses difficultés, soit parce que la turbidité a augmenté, soit parce que vous faites arriver plus de contaminants, soit parce qu'il y a tellement de sels nutritifs que vous allez dépasser les capacités de charge de cet écosystème, notamment des hypoxies ou des anoxies à l'arrivée. Et puis, si vous allez en Arctique, là, vous avez des changements dans la stratification, c'est-à-dire la stabilité de la colonne d'eau, parce que de l'eau douce apparaît, et cette eau douce, elle a tendance à stabiliser l'eau, de l'eau douce en surface, se mélange mal avec de l'eau très salée et très froide en dessous, et cette eau douce, un peu plus chaude et un peu plus dessalée, va avoir tendance à rester en surface et change la dynamique du phytoplancton au milieu côtier. Ouais. Et donc les animaux qui sont au fond, qui eux attendent, et sont des animaux filtreurs, attendent ces particules, attendent cette nourriture et attendent ces micro-algues fourrages, ou changer complètement les conditions d'alimentation et évidemment leur croissance, leur défense immunitaire, leur reproduction change énormément. Et à l'arrivée, je vous cite Yatella artica, un petit bivalve qui est en Bretagne et qui est même au Maroc. Et ce petit bivalve-là, il se retrouve mangé par les morses au Spitzberg avec une mie. Ces animaux-là, si demain matin ils disparaissent parce que vous avez, à cause du changement climatique, autorisé l'introduction d'une nouvelle espèce, d'un crabe vert ou que sais-je, vous vous retrouvez avec un morse qui n'a plus rien à manger. Et les implications du changement climatique à des échelles globales sont difficiles à prévoir et le peu qu'on peut prévoir est un petit peu anxiogène.
C'est toute la chaîne alimentaire finalement qui risque d'être bouleversée. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les fonds marins ne sont pas silencieux. Vous enregistrez notamment pas mal de sons en mer. Alors que nous apprend notamment l'enregistrement du claquement des valves de la coquille Saint-Jacques ?
Eh bien, c'est pour ça qu'on a fini par dire qu'une coquille Saint-Jacques était une sentinelle. Parce que notre espoir, c'est d'utiliser la coquille Saint-Jacques, in fine, comme un chien qui aboie dans la ferme ou comme les oies des Capitoles, capable de faire un bruit anormal quand il se passe quelque chose d'anormal. Et l'idée, au départ, est, une nouvelle fois, cette idée-là, elle est venue complètement par hasard. Faut pas croire que les scientifiques ont des idées géniales comme ça tous les matins. Mais on voulait savoir pourquoi la strie était fabriquée chaque jour. Et surtout, quand dans la journée était fabriquée. Et on s'intéressait au mouvement, parce que, je ne vais pas vous faire un coup là-dessus, mais il faut que le manteau de l'animal sorte et qu'elle arrête tout mouvement pendant une petite partie de la journée pour fabriquer cette structure qui est à l'extérieur de l'animal. Donc il faut qu'elle soit complètement épanouie et immobile. Bon. Donc on a mis des accéléromètres, hein, ce qu'il y a dans votre téléphone qui permet l'affichage en mode portrait ou en mode paysage et qui détecte les mouvements de votre téléphone par rapport à la Terre. Ça, en plus petit, avec une batterie et avec de la mémoire, ça devient un accéléromètre qui enregistre les mouvements. Et puis, ça marchait bien et on s'est dit, mais ça se trouve, on peut l'écouter. Et là, une nouvelle fois, c'est complètement fortuit avec une équipe de l'INSTA Bretagne. À Brest, là, on a commencé à écouter, on s'est aperçu qu'on entendait bien les coquilles Saint-Jacques et qu'il était intéressant de l'écouter parce que c'était pas intrusif, c'est quelque chose de passif, comme ce que vous êtes en train de faire avec moi. C'est-à-dire que j'ai effectivement un micro en face de moi, mais rien n'est collé sur ma peau, rien n'est sur mes oreilles. Vous voyez, c'est pas du tout intrusif. Le résultat des courses, c'est qu'on s'est mis à écouter les coquilles Saint-Jacques dans leur environnement et on s'est aperçu qu'il y avait tout un paysage sonore, évidemment des vagues, de la pluie, on entend des bateaux passer, mais surtout on entend des crustacés, des homards, des araignées et un chorus d'animaux qui donnent des informations très très intéressantes sur la biodiversité, sur l'état de santé probablement de l'écosystème qu'on est en train d'écouter. Et in fine, à Saint-Brieuc, on inverse le problème, quel est l'impact du bruit des hommes quand on construit des éoliennes ou quand on fait naviguer des bateaux sur ces invertébrés, sur la coquille Saint-Jacques. Ça nous intéresse beaucoup et on s'en va gentiment entre de la science pure et dure en écologie et en science de l'ingénieur jusqu'à la musique et jusqu'à l'art pour essayer d'être un petit peu moins anxiogène et un petit peu plus joyeux et surtout un peu plus attractif vers l'océanographie quand on parle aux 15-25 ans.
La coquille, on l'a pas mal explorée sous différentes thématiques. On a parlé de sa composition, des différentes stries. Est-ce qu'elle nous cache encore des mystères ?
On va attendre de la forme, la coquille Saint-Jacques. D'ailleurs, il y a une publication de M. Chirac qu'il faut lire absolument. Elle est un petit peu trapue, mais le NS Lyon a fait une publication assez énorme sur les mollusques, sur les gastéropodes. Et il faut bien se rendre compte qu'il y a toute une communauté scientifique qui n'est pas monstrueuse, mais une communauté scientifique qui s'intéresse à la forme. Et effectivement, cette forme, au-delà de la poésie et de l'esthétique et des choses qu'on peut dire sur les choix du symbole, la coquille Saint-Jacques pour des religions, pour dès le néolithique, des tribus, et bon, au-delà de cette reconnaissance assez universelle qu'on a tous sur la beauté des coquillages, il y a quelque chose d'assez incroyable sur le côté pérenne de ces formes et le côté stable dans l'évolution sur pourquoi un escargot s'enroule toujours à droite et pourquoi il le fait. C'est réellement une curiosité de la nature et les mathématiques et la physique là, renseignent énormément sur la biologie.
En 2022, ce sera l'année internationale de la pêche et de l'aquaculture. Quels espoirs on peut attendre justement pour limiter un peu notamment les effets du réchauffement climatique? Est-ce qu'on peut s'attendre à des réglementations sur un statut juridique, par exemple, pour la mer?
Un statut juridique, c'est une vraie discussion au sein du CNRS et au sein de l'Europe en entier sur le nouveau statut à donner à l'océan. Je pense que si vous parlez de la coquille Saint-Jacques, voilà une pêcherie qui est extrêmement bien gérée. Si vous interviewez les pêcheurs de Saint-Brieuc ou les pêcheurs de la rade de Brest ou évidemment l'énorme tonnage en baie de Seine. Voilà un stock bien géré qui a l'air de se porter vraiment bien. Et comme c'est un animal, je vous le répète, qui vit du Maroc à la Norvège, le changement climatique ne va pas changer a priori, au moins la température. Après, les conditions trophiques et d'autres paramètres peut-être, ou peut-être des maladies, mais a priori, voilà un animal qui va garder sa place. Ouais. Et va pas être bouleversé complètement avec le changement attendu, au moins pas dans l'immédiat. Ouais. Après, ouais, on pêche 80 millions de tonnes, je crois, de poissons sur la planète, et c'est assez stable, et on a atteint un palier, et on est arrivé à 100 millions de tonnes en production en aquaculture. Ouais. Ce chiffre-là, lui, probablement va augmenter encore, et ben, faut réfléchir peut-être à qu'est-ce qu'on mange et à quel prix on mange tout ça. On peut faire un débat là, ce soir là-dessus, mais... la question est bonne. Est-ce qu'elle est bonne sur dans un contexte où le climat change, dans un contexte où on a du mal à gérer nos contaminations en mer, dans un contexte où les impacts anthropiques sont quand même réellement forts? La pêche et l'aquaculture se font dans un contexte où la mer est fortement agressée. C'est pas une plaisanterie, c'est pas une vue de l'esprit. Alors on voit toujours du bleu vu de l'espace quand Thomas Pesquet fait des photos, mais en dessous, tout n'est pas bleu, c'est pas vrai.
Eh bien, merci beaucoup, Laurent Chauveau.